Chapitre 41. Washington DC, mardi 21 avril 1981. Jack Cohen pensa à Saul et à Nathalie durant tout le trajet. Il s'inquiétait à leur sujet, ne sachant ni ce qu'ils préparaient, ni s'ils étaient capables de réussir. Ses 30 ans d'expérience dans l'espionnage lui avaient enseigné que c'était toujours les amateurs qui se retrouvaient sur le carreau à la fin d'une mission. Il se rappela que ceci n'était pas une mission. « Qu'est-ce que c'est alors ?» se demanda-t-il. Saul avait insisté, beaucoup trop insisté, pensait Cohen, sur la façon dont l'Israélien s'était procuré des informations au sujet de Barent et de sa clique. Cohen avait-il pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas être découvert lors de ses recherches informatiques? Avait-il fait preuve de prudence lorsqu'il s'était rendu à Charleston et à Los Angeles? Cohen s'était senti obligé de rappeler au psychiatre qu'il était rompu à ce genre d'exercice depuis les années 40. Alors que l'avion approchait de Washington, Cohen se rendit compte qu'il ressentait une anxiété croissante et un vague sentiment de culpabilité, deux émotions qu'il éprouvait chaque fois qu'il organisait une mission dans laquelle il utilisait des civils. Il se répéta pour la 50e fois qu'il ne comptait pas utiliser ces deux-là. « Est-ce que ce sont eux qui m'utilisent ?» Cohen était sûr que Levi Cole et le neveu de Saul Lasky avaient été tués par un élément incontrôlé de l'unité de contre-espionnage du FBI, dirigée par Colben. L'élimination de toute la famille d'Aaron Eshkol n'en était pas moins incroyable et inexplicable. Cohen savait que la CIA risquait de se retrouver dans une telle situation si elle perdait le contrôle de ses tueurs à gages. L'Israélien avait lui-même organisé en Jordanie une mission qui avait mal tourné et s'était soldée par la mort de 3 civils. Mais jamais, à sa connaissance, le FBI ne s'était comporté de façon aussi brutale. Cependant, une fois que Saul Lasky lui avait fait prendre conscience des liens unissant Charles Colben et le milliardaire Barent, il lui avait été impossible d'en nier l'existence. Cohen était résolu à faire toute la lumière sur l'assassinat de Levi Cole. Celui-ci était son protégé, un jeune agent à l'esprit vif, provisoirement affecté aux chiffres et aux communications pour enrichir son expérience, mais promis à un brillant avenir. Levi possédait les qualités indispensables à cette espèce des plus rares, un excellent agent de terrain. Il faisait montre d'une prudence instinctive, mais était fasciné par ce jeu qu'est l'espionnage, cette lutte complexe et souvent interminable entre deux adversaires intelligents qui ne se rencontrent jamais et ignorent presque toujours le nom et la position de leur opposant. Cohen jeta un coup d'œil par le hublot et vit la lumière de l'après-midi jouer sur les fleurs et les bourgeons. Il avait sa propre théorie sur le changement d'attitude subi du FBI. Peut-être que les furetages involontaires d'Aaron et de Levi avaient mis la puce à l'oreille de Colben, et que celui-ci avait découvert l'existence de l'opération Jonas, un plan d'infiltration des services de contre-espionnage américains mis en place depuis 7 ans. Durant la période d'arrogance qui avait suivi la guerre des 6 jours, on avait proposé à Tel Aviv de profiter de la manne d'informations que représentaient les services américains en plaçant des taupes et des informateurs à certaines positions clés. Il n'était pas nécessaire d'infiltrer la CIA et les agences de documentation extérieure. Le Mossad avait procédé à des analyses poussées et savait comment exploiter les ressources du FBI et des autres organismes internes. Outre le fait qu'Israël aurait accès à un réseau d'informations électroniques hors de portée des finances du Mossad, avait targué les partisans du plan, les agents infiltrés auraient accès à des informations intérieures américaines, en particulier au dossier sur les hommes politiques que le FBI avait établi depuis sa fondation afin de préserver ses intérêts, et qui aurait une valeur inestimable si Israël devait affronter une nouvelle crise nécessitant le soutien de parlementaires ou de hauts fonctionnaires américains. L'opération avait été jugée trop risquée, aussi réaliste que le plan Gemstone, né de l'esprit fertile de J. Gordon Liddy, jusqu'à ce que l'horrible guerre du Kippour ait démontré au maître de Tel Aviv que la survie même d'Israël dépendait d'un réseau d'information ultramoderne comme seuls les Américains en disposaient. L'opération Jonas avait été lancée en 1974, le mois même où Jack Cohen avait pris ses fonctions de chef de groupe à Washington. Aujourd'hui, Jonas était devenu la baleine qui avait avalé le Mossad. Une quantité démesurée de temps et d'argent avait été investie dans le projet, d'abord pour le développer, ensuite pour le protéger. Les politiciens de Tel Aviv redoutaient en permanence que les Américains ne découvrent l'existence de Jonas à un moment où le soutien des États-Unis leur était nécessaire. La plupart des informations en provenance de Washington étaient inutilisables, sous peine de révéler l'existence de l'infiltration. Cohen pensait que le Mossad commençait à se comporter comme un mari trompant sa femme. Il redoutait le jour où sa liaison serait découverte, mais il se sentait si honteux et si las de se sentir honteux qu'il souhaitait presque être percé à jour. Cohen passa ses options en revue. Il pouvait rester en contact avec Saul et Nathalie, tenant le Mossad à l'écart de leur étrange projet d'amateur, et attendre le résultat. Ou il pouvait intervenir tout de suite, donner l'ordre à la section Côte-Ouest de jouer un rôle plus actif. Il n'avait pas dit à Saul que la planque était truffée de micros. Cohen aurait pu ordonner à trois agents de Los Angeles de poster une fourgonnette dans les bois, à 1 ou 2 kilomètres de la ferme, et de lui transmettre les enregistrements en temps réel sur une ligne protégée. Cela l'obligerait à impliquer au moins une demi-douzaine d'agents du Mossad, mais il n'avait pas le choix. Saul Lasky avait dit qu'il n'avait plus l'intention d'attendre l'arrivée de la cavalerie. Mais dans ce cas, pensa Cohen, la cavalerie allait venir à la rescousse, que ça plaise ou non à la caravane. Cohen ne voyait aucun rapport entre l'opération Jonas et les activités de Barent, Kolben et consorts, ni entre le nazi disparu, et sans doute mythique de Lasky, et les incidents sanglants survenus à Washington et à Philadelphie. Mais il se tramait quelque chose. Cohen était résolu à en savoir plus. Et si le directeur n'était pas d'accord, eh bien tant pis pour lui. Il avait emporté un sac de voyage, mais ne l'avait pas gardé avec lui durant le vol, car il contenait son automatique 45. La sécurité dans les aéroports devenait vraiment chiante, pensa-t-il en attendant de le récupérer sur le tapis roulant de l'aéroport d'Hules. Il se dirigea vers le parking longue durée où il avait laissé sa vieille Chevrolet bleue, se félicitant de sa décision. Il appellerait John ou Ephraim dès cet après-midi, les avertirait que la planque était occupée et leur demanderait de la surveiller. Dans le pire des cas, Saul et Nathalie auraient des renforts sur place pour les aider. Cohen se glissa entre sa voiture et le véhicule voisin, ouvrit la portière et jeta son sac de voyage sur le siège avant droit. Il jeta un regard irrité vers l'homme qui s'approchait de lui entre les deux voitures. Le nouveau venu n'avait qu'à attendre qu'il soit sorti. Une seconde s'écoula avant que son instinct ne l'alerte. Une autre avant qu'il reconnaisse le visage mal éclairé de l'autre. C'était Levi Cole. Cohen avait plongé la main dans la poche de son manteau lorsqu'il se rappela que son 45 était enfoui au milieu de ses chaussettes. Il leva les mains et adopta une posture de défense, mais l'identité de l'intrus l'avait plongé dans la confusion. « Levi ? Jack ! » C'était un appel à l'aide. Le jeune agent semblait pâle et amaigri, comme s'il avait passé plusieurs semaines en prison. Ses yeux étaient vitreux, presque dénués de vie. Il leva les mains comme pour serrer Cohen dans ses bras. Cohen se détendit, mais plaqua une main sur le torse du jeune homme pour l'arrêter. « Qu'est-ce qui se passe, Levi ? » demanda-t-il en hébreu. « Où étais-tu ? » Levi Cole était gaucher. Cohen l'avait oublié. Le fourreau à ressort dissimulé dans sa manche éjecta un couteau dans sa main presque sans un bruit. Le bras de Levi jaillit si vite que son mouvement parut presque spasmodique, et Cohen eut lui aussi un spasme involontaire lorsque la lame s'insinua entre ses côtes et plongea dans son cœur. Levi disposa le cadavre sur le siège avant gauche de la voiture et regarda autour de lui. Une limousine se gara doucement derrière la Chevrolet, la dissimulant au regard. Lévy prit le portefeuille de Cohen, y préleva billets et cartes de crédit, puis fouilla les poches de son manteau et son sac de voyage, jetant ses vêtements sur la banquette arrière. Il rassembla dans ses mains le 45, les billets d'avion, l'argent, les cartes de crédit et une enveloppe contenant des reçus. Lévy coucha le cadavre sur le tapis de sol, referma la portière de la Chevrolet et se dirigea vers la limousine qui l'attendait. Ils sortirent du parking et s'engagèrent sur la voie express en direction d'Arlington.
« Pas grand-chose, »
dit Richard Haynes dans le micro du radiotéléphone. « Deux reçus provenant de la station Shell de San Juan Capistrano. Des reçus d'un hôtel de Long Beach. Cela vous dit quelque chose ?»«
Envoyez vos hommes enquêter, » dit la voix de Barrent. « Commencez par l'hôtel et la station-service. » L'heure est-elle venue pour les hirondelles de retourner à Capistrano ?
Je pense qu'elle est passée,
dit Haynes sur la ligne protégée. Il jeta un regard à Lévy Cole, assis à côté de lui, les yeux fixes.
Que faisons-nous de votre ami ?
J'en ai fini avec lui, dit Barrent.
Pour aujourd'hui ou pour de bon ?
Je pense ne plus avoir besoin de lui à l'avenir.
Entendu, dit Haynes. Nous allons nous en occuper.
« Richard ?»«
Oui ?»«
Commencez votre enquête tout de suite, je vous prie. Je ne sais pas ce qui a attiré l'attention du trop curieux Mr. Cohen en Californie, mais cela attire également la mienne. J'attends votre rapport pour vendredi au plus tard. »«
Vous l'aurez. »
Richard Haynes replaça le combiné sur son socle et contempla le paysage de Virginie. Un avion passa au-dessus de lui en un éclair, gagnant rapidement de l'altitude, et il se demanda s'il s'agissait du jet de Mr. Barrent en route pour une destination inconnue. Derrière le vert teinté du pare-brise, le ciel dégagé prenait la couleur d'un vieux cognac, dispensant une lumière cuivrée, vaguement pisseuse, qui faisait croire à l'imminence d'une terrible tempête.